partenariat officiel entre RCJ et Cannes Israël en français. RCJ, média du FSJU, et Cannes en français, la radio publique israélienne, partagent leurs programmes. Pour être encore plus près de l'actu en France et en Israël et en France, restez branchés. Téléchargez l'application mobile gratuite de RCJ pour écouter Cannes Israël en français, avec le concours du FSJU France-Israël.
Denis Charbit, bonsoir.
Bonjour.
Alors Denis, on est ravis de vous retrouver, surtout pour rendre hommage à une très grande figure de la communauté franco-israélienne, à une très grande figure de la pensée intellectuelle française. Il s'agit d'André Chouraki. On a choisi cette période, à quelques jours de Yom Yerushalayim, la journée de Jérusalem, d'en parler ensemble. Alors, je vais juste rappeler à nos auditeurs quelques petits repères dans le temps au sujet d'André Chouraki. Donc André Chouraki est né le 11 août 1917 en Algérie et il est mort le 9 juillet 2007 à Jérusalem. Alors on dit de lui qu'il était écrivain, penseur, avocat, mais il était également homme politique. Il s'est installé à Jérusalem en 1958. Il a été d'ailleurs élu vice-maire de la ville en 1965 auprès du célèbre Teddy Kollek. Alors je vais pas raconter toute sa vie, mais je voudrais juste signaler qu'André Chouraki a été le premier à avoir traduit les grands textes sacrés, c'est-à-dire l'Ancien Testament, donc la Bible, le Nouveau Testament et le Coran. Voilà, alors je vous laisse la parole, Denis, pour nous parler un peu plus de ce grand homme.
Oui, effectivement, c'est un des éminents penseurs de la deuxième moitié du XXe siècle qui a marqué, je dirais, l'histoire juive d'Algérie, de France, d'Israël aussi, même si son écho en Israël a été plus, on va dire, plus feutré. Je crois que l'importance de sa contribution, elle est dans une approche, je dirais, spirituel du judaïsme, un judaïsme qui ne se réduit pas à la pratique et à l'exercice des commandements. Alors ça peut paraître un petit peu étrange par rapport à une vision qu'on a du judaïsme comme une religion de commandements, qui a lié ce renouvellement, cette renaissance du judaïsme qui lui était chère, à la renaissance d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle il est un des premiers intellectuels français à être monté en Israël. En général, on parle toujours des intellectuels qui viennent en Israël après 1967. Mmh. Lui, il a précédé cette génération-là, des André Neher, des Léon Ashkenazi, eh bien, en s'établissant dès 1958. Et vous avez effectivement noté à juste titre, je dirais, la palette énorme, très large de ses activités, puisque quand on voit son œuvre, qui est considérable, c'est plus d'une cinquantaine de volumes, eh bien on voit qu'il touche bien sûr à la pensée juive, à la traduction de la Bible, vous l'avez cité, mais également au droit, à l'histoire, et je dirais à quelque chose qui a beaucoup compté, même si on a tendance à regarder ça avec un petit peu de distance, je dirais c'est la vulgarisation de l'État d'Israël. Parce que dans les années 50, parler d'Israël, mais c'était, je parle de l'État d'Israël, c'était une chose tout à fait neuve. Et André Chouraki a eu, je dirais, le privilège d'écrire la première thèse sur l'État d'Israël, qui a été accepté en 1949, vous voyez, il y avait pas de... Vraiment, c'est un pionnier là-dessus, mais par la suite, il a écrit une biographie de Herzl, et puis j'ajouterais, puisque c'est dans le contexte de la journée de Jérusalem que vous me demandez, vous me priez de parler d'André Chouraki, je dirais que, voilà, Jérusalem est inséparable de sa vie. Il n'aurait pas pu envisager d'habiter ailleurs qu'à Jérusalem, et il en a raconté l'histoire, il en a raconté le présent, vous l'avez dit, il s'est occupé à la fois des affaires interreligieuses auprès de Teddy Kollek comme vice-maire de Jérusalem. Et donc à cet égard, Jérusalem, c'est à la fois le présent, le passé, mais c'est aussi, et c'est ça, je dirais peut-être la dimension qui, moi, me touche le plus et m'aime le plus, c'est que pour lui, c'est inséparable d'une vocation universelle du judaïsme. Mm-hmm. Là où on pourrait penser, où on a pu penser que le sionisme, bah, c'est bon pour les juifs, pour qu'ils aient un refuge. Lui, il a toujours envisagé et le sionisme et le judaïsme dans une perspective de contribution à l'humanité tout entière.
Alors donc il a choisi en fait, il a choisi en fait le cœur de l'humanité, hein, la ville de Jérusalem, pour peut-être aussi favoriser le rayonnement du dialogue interconfessionnel, parce que c'était très important pour lui. La rencontre.
C'était capital.
La rencontre entre juifs, arabes, chrétiens, enfin juifs, musulmans, chrétiens plutôt, c'était au cœur de son œuvre, et puis c'était au cœur de sa vie.
Alors, je dirais effectivement au cœur de sa pratique, pas simplement de son œuvre, puisque dès les années 50, il est un des pionniers des amitiés judéo-chrétiennes de France. Mmh. Et puis, arrivé en Israël, et surtout après 67, eh bien, un de ses livres, sans doute un des plus importants, des témoignages les plus significatifs, justement sur Jérusalem, c'est Lettre à un ami arabe.
Tout à fait.
Voilà, dans lequel.
Qu'il a écrit après la guerre des Six Jours, je crois.
Qu'il a écrit. Après la guerre des Six Jours, effectivement.
Préfacé par Shimon Peres, d'ailleurs. Hein. Excusez-moi, je vous interromps, mais c'est important de le dire parce que c'est quand même assez exceptionnel avec une préface de Shimon Peres.
Tout à fait. Et donc, dans cette lettre-là, il entend expliquer, et ensuite il essaiera de le faire, hein, de réfléchir à des solutions fédéral, confédéral, c'est-à-dire que pour lui, il ne s'agissait pas d'imposer, je dirais, par la force des armes, même si c'est comme cela que ça s'est fait, on est passé par cette étape-là, mais c'est, encore une fois, pour essayer de retrouver, de renouer le dialogue, parce qu'il croyait effectivement, et ça je dirais que c'est pour moi ce qu'il y a de plus émouvant et peut-être, je dirais presque, de plus tragique. C'est-à-dire qu'il a cru, et il croyait, jusqu'à sa mort d'ailleurs, à la possibilité que, et au devoir, je dirais, pas simplement la possibilité, mais au devoir qu'ont les enfants d'Abraham, musulmans, chrétiens et juifs, de réconcilier tous les hommes qui vivent sur cette terre meurtrie. Et ça, je pense que c'est un message extraordinaire, parce que de nos jours, quand on interroge les gens sur la contribution des religions à la paix, ils ont plutôt tendance à vous dire mais pas du tout, les religions c'est ça qui attise aujourd'hui la guerre, c'est les sources du fanatisme sont dans les gens. Et lui, et non pas qu'il ne voyait pas ce qui se passait, mais il croyait dur comme fer que les religions sont faites pour s'entendre, puisqu'elles ont le même message universel. Et qu'elles ont les mêmes sources. Hein. Le Coran ne répudie pas la Bible, les chrétiens ne répudient pas l'Ancien Testament. Et donc, voilà. Et ça, il en a été un des pionniers jusqu'au bout, à la fois sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan politique. Il a toujours cru à des solutions de réconciliation. Et alors, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il. Il se méfiait un petit peu du politique qui a tendance à tout régimenter ou légiférer en termes de souveraineté, pouvoir, armée, etc. Lui essayait d'autres voies et celle du dialogue interreligieux a été sans doute l'une des principales.
Alors pour revenir à la ville de Jérusalem, on peut dire qu'elle était au cœur de sa vie, au cœur de son œuvre. Elle faisait partie de ses rêves et de ses aspirations. On se rappelle qu'André Chouraqui habitait dans une maison dans la vallée de Abou Tor, avec une vue absolument extraordinaire sur la vallée et sur les murailles de la vieille ville de Jérusalem. Quel type d'homme était André Chouraqui, Denis ?
Écoutez, moi je l'ai connu à la fin de sa vie, hein, bien sûr, et c'était un homme très curieux, voilà, curieux des hommes, curieux à la fois bien sûr de la spiritualité juive, mais également des spiritualités étrangères. Hein. Il s'est même intéressé au bouddhisme. Il a eu un lien avec l'Afrique, par exemple, qu'on n'évoque pas assez. Voilà, il était convaincu. Il a eu cette capacité de nouer le dialogue avec des personnalités aussi différentes que des hommes politique bien sûr, mais aussi des figures spirituelles, je pense notamment au Dalai Lama. Il a eu une existence absolument, il a connu beaucoup d'écrivains également.
C'était une plaque tournante des intellectuels et des écrivains du monde qui passaient à Jérusalem, passaient par la maison d'André Chouraki.
Exactement. Ah oui, c'était effectivement un endroit, clé, une clé de voûte, si j'ose dire, un indispensable, un incontournable. Et je crois qu'il est toujours dans l'apaisement, dans la réconciliation. Il croyait véritablement à la force du dialogue et à ses capacités. Et même si les temps sont également des temps de violence, il n'a jamais renoncé à cette idée-là, parce que il faut le dire, il était au Chambon-sur-Lignon durant la Seconde Guerre mondiale, et en même temps qu'il sauvait des enfants juifs, il animait un cercle d'études juives. Vous voyez, il y a toujours eu pour lui l'importance que le spirituel vienne être une parole contre, une parole contre la violence. Et il y a toujours
cru,
il l'a toujours fait.
C'était souvent le cas des intellectuels de cette époque. En tout cas, chez les franco-israéliens, c'était souvent le cas.
C'est vrai que de ce point de vue-là, il y a une sorte de parenté. Hein. C'est vrai que c'est vrai que la problématique judéo-chrétienne, c'est vrai qu'on peut la retrouver chez André Neher, on peut la retrouver chez Léon Ashkenazi, oui, bien sûr. Les relations judéo-musulmanes, je dirais quand même que ça reste quelque chose qui lui est en propre. Voilà, il n'a pas, pour lui. Tout ce qui apparaissait comme un défi insurmontable, il y allait quand même. Il avait une sorte de confiance en lui-même, hein, le sentiment que sa parole pourrait franchir les portes les mieux scellées.
J'aimerais qu'on revienne, Denis, sur sa traduction littérale, j'ai envie de dire, du texte de la Bible, pour tous ceux qui ont eu la chance d'avoir en main une traduction de Chouraki. Alors on est stupéfait parce que c'est un nouveau langage, c'est une nouvelle lecture avec une précision au niveau de la traduction des mots. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Bien sûr. Alors André Chouraki a fait, alors qu'il avait déjà tout au début de sa carrière, commençait par traduire le Devoir de cœur d'Ibn Pakouda. Et puis on a senti que ce projet-là, il l'a mûri. Et c'est vrai qu'à partir du début des années 70 et pratiquement jusque dans les années 2000, ça a été sa grande affaire, sa grande œuvre. Alors, c'est quoi la singularité ? Effectivement, la singularité, il était, il faut le dire, non seulement un amoureux de Jérusalem, mais surtout un amoureux de l'hébreu. Hein. C'était une langue qu'il maîtrisait parfaitement. Et il avait le sentiment, pas faux du tout d'ailleurs, que les traductions françaises qui existaient, mais que ce soit d'ailleurs celle de Louis II ou celle de la Bible de Jérusalem ou celle du rabbinat, hein, de Limouk, etc., il avait le sentiment que elle rendait abstrait les situations dont évoque la Bible, hein, ou les chants, ou la poésie, ou les lois, d'abord parce que le filtre hébreu était, comme absorbé, comme oublié, comme dissous. Voilà. Et lui, il a voulu rétablir la sonorité de l'hébreu, l'importance de l'hébreu dans la langue française. Alors, on va me dire, mais comment on fait ça ? Eh bien, il l'a fait par deux moyens, et on pourra en citer d'autres, mais j'en citerai deux en tout cas maintenant. Le premier, d'abord, et c'est tout banal et c'est tout simple, mais il fallait y penser, et c'est André Chouraki qui y a pensé le premier. C'est d'abord appeler les individus par leur nom. Je veux dire, on dit tous Moïse, nous disons tous Salomon. Et ben lui, il a dit, Salomon, il s'appelle pas Salomon dans la Bible, il s'appelle Shmuel. Quand vous avez un ouvrage de littérature anglais et que il y a un James, vous traduisez pas par Jacques, vous laissez James. Et ben il a fait la même chose. Ça paraît banal, ça paraît élémentaire, mais c'est la première chose qu'il a fait. Moïse s'appelle plus Moïse, il s'appelle Moshe. Alors quand c'est la même chose
et
comme
oui, on n'y pense pas David, en fait. Aujourd'hui, on a tellement accès à la langue hébraïque qu'on n'y pense pas. Mais à l'époque, c'est vrai que c'était révolutionnaire d'appeler Moïse Moshe.
Moshe, bien sûr, parce que c'est presque plus de 1000 ans où on s'est habitué à ce que en français ou en anglais ou dans d'autres langues, c'est Moïse. Ouais. Et lui, il a dit non, mais attendez, comment on fait aujourd'hui en littérature tous les romans traduits d'une langue étrangère on traduit pas des prénoms russes, on traduit pas des prénoms anglais.
Et alors, ce qui est intéressant aussi sur un des termes très importants de ce texte de la Bible, c'est quand on parle de Adam Arishon, de Adam, il a traduit le nom de Adam par le glébeu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ça?
Ben oui, parce que alors ça c'est sa deuxième, souffle ou condition ou idée qu'il avait, c'est que il faut revenir à la racine hébraïque.
C'est ça.
Or Adam vient de Adama, donc il faut trouver quelque chose qui rappelle cette idée que l'homme vient né de la terre, né de la glèbe, et il a retrouvé effectivement ce mot français un peu archaïque. Donc voyez, il a même renouvelé d'une certaine manière la langue française. Il a respecté par exemple également les pluriels. Alors prenons le mot par excellence qui est au pluriel. Le mot vie, c'est toujours Lévi, c'est toujours avec un S à la fin, parce que il voulait que l'on retrouve. Ça a suscité, à la fois de l'admiration chez les uns, chez d'autres beaucoup de réticence. Mais c'est vrai que c'est une Bible hébraïque en français, là où on avait des Bibles dont, vous savez, il y a deux écoles de traduction classique, ce qu'on appelle les sourciers et les ciblistes. On avait toujours les ciblistes, c'est ceux qui disent ce qui m'importe. C'est la cible, c'est à qui je m'adresse. Je m'adresse à un public français, donc il faut que ce soit d'abord français. Et puis il y a ceux qui sont très fidèles, donc ce qu'on appelle des sourciers, c'est-à-dire qui sont fidèles à la source, qui disent moi ce que je veux, c'est traduire, c'est qu'on ait la langue source présente quand on le lit. Mmh. Et ça, c'est vrai que ce choix-là qu'il a fait, qui est unique, il y en a très peu, même. Et encore une fois, c'est pas une question de est-ce que le traducteur est juif ou pas. Traduction d'Edmond Fleg ou d'autres, c'est clair qu'on a privilégié la langue d'arrivée. Lui, il a dit ma contribution, c'est de faire entendre autant que faire se peut l'hébreu, en respectant les noms, en respectant la syntaxe, Et c'est vrai que ça donne une Bible très particulière, singulière,
mais très intéressante,
qui peut parfois rebuter, mais parfois exalte.
Alors, Denis Charbit, pour terminer cet entretien, c'est difficile, bien sûr, de balayer en quelques minutes la vie d'un tel homme, mais on lui a rendu hommage à André Chouraki à Jérusalem. Est-ce qu'il y a une rue qui porte son nom ou un centre culturel ou qu'est-ce que la communauté franco-israélienne a fait pour lui?
Alors justement, c'est l'occasion d'annoncer une très bonne nouvelle. Il y a déjà plus d'un an et demi, la mairie de Jérusalem a voulu rendre hommage à André Chouraki en décidant qu'une place dans le quartier d'Arnona à Jérusalem porterait son nom. Or voilà que ensuite on est entré dans la période du coronavirus et donc on n'a jamais pu encore l'inaugurer.
Ah oui.
Et c'est le 21 juin, je peux l'annoncer, c'est un scoop. Comme vous dites dans votre métier, c'est le 21 juin et j'appelle tous les habitants francophones et non francophones d'ailleurs de Jérusalem à venir se rendre dans le quartier Arnona sur cette place qui sera donc enfin inaugurée par le maire de Jérusalem.
Je crois que c'est grâce aussi à l'association des amis d'André Chouraki qui ont beaucoup œuvré pour ça.
Et je dirais surtout le rôle de son épouse, Annette Chouraki, qui est toujours parmi nous, très active et qui a multiplié les démarches de telle sorte que la ville de Jérusalem rend hommage à André Chouraki. Ce sera inauguré le 21 juin, le jour du passage du printemps à l'été. Ça me paraît être aussi très significatif de l'homme qui était André Chouraki. Voilà.
Et si vous souhaitez en savoir plus sur la vie et l'homme qu'était André Chouraki, eh bien, nous allons retrouver tout de suite Osna Tabib qui organise une excursion très spéciale, très particulière autour d'André Chouraki. Osna Tabib, bonjour.
Bonjour Emmanuel, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui.
Ah oui, alors nous aussi on est très heureuse de vous avoir avec nous pour continuer cet éloge à André Chouraki que Denis Charbit vient de faire à l'occasion de Yom Yerushalayim. Et vous Osnat, eh bien vous organisez avec votre agence Nessia une excursion, c'est plutôt un tour sur les traces d'André Chouraki.
Oui.
Dans les alentours et à Jérusalem.
Exactement, cela fait partie d'une série que nous organisons sur les pas d'eux, donc sur les pas d'André Chouraki, dans un lieu complètement atypique et un peu original pour parler de lui. C'est dans le monastère de Beit Jamal qui se trouve près de Beit Shemesh. Et la particularité de ce monastère qui est le centre des sœurs de Bethléem, c'est aussi là que sa veuve d'André Chouraki a légué sa bibliothèque et son bureau. Voilà.
D'accord. On retrouve en fait ses livres là-bas sur place.
Exactement, tout à fait. On va se retrouver vraiment dans l'ambiance de son bureau qu'il avait à Jérusalem et sa bibliothèque. Et nous allons donc être avec Denis Charbit qui va nous parler de lui comme autant l'homme de avec sa traduction de la Bible et du Coran. Mais je pense que ce qui était intéressant aussi pour nous, c'est de découvrir cet homme dans un autre contexte. Justement, mm-hmm. Il a énormément aidé à faire en sorte que il a été conseiller spécial de Ben Gurion dans les années de Ben Gurion. Ensuite, il a beaucoup agi pour le social et l'éducation en Israël. Ça, je crois qu'on le sait.
On le sait moins, ça.
Et il a surtout aussi aidé à l'installation de. Voilà, on le sait moins et nous on a toujours essayé de trouver d'autres facettes d'un personnage qui peut être très très connu. C'est vrai plus par la communauté séfarade d'Algérie puisqu'il était d'Algérie et donc là il a encouragé l'installation des sœurs de Bethléem à Beit Jamal et leur a légué sa bibliothèque. Donc nous allons et découvrir dans un premier temps le monastère, découvrir, je dirais, le derrière des nous allons voir avec les sœurs, elles vont nous expliquer comment elles font vœu de silence, mais cette fois-ci elles vont nous parler, découvrir vraiment comment fonctionne un monastère, quelle est leur vie, et ensuite après donc nous serons dans la bibliothèque, dans le bureau d'André Chouraki et avec Denis Charbit qui nous fera vraiment nous parlera de lui de façon plus approfondie.
Alors c'est une autre façon de découvrir à la fois Israël, à la fois la vie des hommes et des femmes qui ont fait ce pays, et c'est pour cela que vous organisez un certain nombre de séjours, de séminaires, de randonnées même à la découverte des grands personnages du pays.
Voilà, ça fait partie des activités de Nessia. C'est pour moi, Nessia, c'est la réalisation d'un rêve. C'est faire découvrir ce que j'aime et faire découvrir ce que l'on aime, ça c'est important. C'est un mélange de découverte de lieux en dehors des sentiers battus et en général peu connus par la communauté francophone. Donc là, ça va être le monastère de Beit Jamal. Bientôt, le 27 mai, ça sera le Kibbutz Ardouf. Et vendredi dernier, nous sommes partis à un petit groupe à la découverte de la poétesse Rachel au Kinneret. Et nous avons lu, nous avons chanté, tout ça, c'est l'une des poétesses les plus célèbres dont les poèmes sont devenus des chansons du patrimoine culturel israélien. Et comme là, on va le faire avec André Chouraki, et à chaque fois, donc on essaye de venir avec un spécialiste. Donc là, ça sera avec Denis Charbit, qui est le président de l'association des amis d'André Chouraki, et qui va nous parler de lui. Et ensuite, l'idée, c'est toujours d'allier la découverte culturelle, mais aussi de découvrir la nature israélienne. Mmh. Et nous ferons, avec notre guide Richard Benamou, une balade autour du monastère pour profiter de cette belle nature israélienne.
Et c'est une jolie façon de fêter aussi Yom Yerushalayim, la journée de Jérusalem, qui était très importante aussi pour André Chouraki. C'était au cœur de sa vie, la ville de Jérusalem. Il y est mort, et je sais que dans toute son œuvre, on retrouve une très grande place pour Jérusalem. Merci beaucoup, Osnat, d'avoir été avec nous. Alors, voilà. Pour être au courant de l'organisation, de ces randonnées, de ces excursions, on peut vous retrouver sur votre page Facebook, j'imagine.
Voilà, vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, Nessia l'art de voyager, et toutes les excursions et les séjours que nous organisons dans les prochaines semaines. N'hésitez pas.
Merci beaucoup
Emmanuel.
À bientôt, Osnat Habib, au revoir.
À bientôt, au revoir.
Vous venez d'écouter une émission de Can Israël dans le cadre du partenariat entre la radio Can Israël, la radio publique d'État israélienne et RCJ. Vous pouvez réécouter cette émission en téléchargeant notre application mobile.